Interview.
1-2-3. Pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Aichagül Kürz, bonjour.
Bonjour.
Et de Johan de Michelis, bonjour.
Bonjour.
Alors, tous les deux, vous êtes ici pour nous parler de CEDI. CEDI est un réseau qui permet le développement et la capacité d'adapter, la population à l'outil numérique. On peut peut-être avant tout commencer par vous demander quelle est l'origine de CEDI.
CEDI, ça remonte à plus ou moins 2012. Au moment où il y a eu les premiers tiers-lieux, premiers espaces de coworking qui se sont montés sur la Drôme. Et du coup, ça a été l'effort d'essayer de mettre en réseau et de trouver des temps de partage entre ces différentes structures pour échanger sur leurs pratiques et voir comment améliorer du coup, le développement de ces lieux qui sont dédiés à essayer de proposer de nouveaux espaces de travail. On parle beaucoup de télétravail en ce moment, mais aussi du coup, tout d'autres formes d'activités comme des formations professionnelles. Et en tout cas, c'est des espaces qui sont dédiés à outiller les gens, les entreprises qui auraient besoin d'outils numériques dans leurs pratiques ou dans leurs activités.
CEDI est une initiative de l'association Le Moulin Digital pour la Drôme qui est établie à quel endroit d'ailleurs ?
Alors, Le Moulin Digital est à Rovaltin, à Valence. À cet endroit-là.
Et donc, cette ramification, parce qu'il y a beaucoup de structures en Drôme par rapport à CEDI, vous avez cité aussi la Motte Chalancon, il y a Cray, DI avec, l'atelier, et puis l'espace Barral, et pour Cray, donc le 8 Fab Lab.
Alors oui, CEDI, c'est le regroupement, je ne saurais pas dire combien il y en a, mais on doit être pas loin, à mon avis, de 19. Après, il y a des lieux qui sont plus ou moins impliqués. Parce qu'en fait, c'est porté administrativement par le Moulin Digital, mais le travail est fait en coopération avec les lieux qui s'investissent. Donc effectivement, là, tu as cité sur DI, il y a Barral, l'atelier, à Cray, il y a le 8 Fab Lab, il y a l'usine vivante, à Valence, il y a la Forge Collective, à Nyons, il y a Revolt, là, qui nous a rejoint aussi, qui est un lieu culturel, il y a la Fabrique à Albon, enfin, il y en a un petit peu partout.
Est-ce que vous êtes en quelque sorte missionné par le pouvoir en attribuant justement ces ramifications, ce réseau de soutien au numérique pour la population qui est demandeuse et parfois même d'être initiée à l'outil numérique puisque l'État devient de plus en dématérialisation, donc il y a nécessité aussi à la population de s'adapter à ce nouveau type d'échange avec l'administration ?
Oui, je pense que c'est vraiment dans ce mouvement-là, en fait, de vraiment aider que ce soit des PME, des TPE, des associations, des individus. Et c'est vraiment de les accompagner dans leur quotidien et maîtriser, déjà connaître, appréhender et peut-être finalement donc être autonome et maîtriser l'outil numérique, non seulement dans son quotidien, mais dans son quotidien professionnel aussi.
Oui, il y a plusieurs portes d'entrée en fait. Là, tu évoquais effectivement les services administratifs qui sont de plus en plus dématérialisés. Donc ça peut être un des volets effectivement, d'accompagner les gens dans ces démarches qui sont pas toujours simples, pas forcément faciles et des fois pas forcément bienvenues partout. C'est pas forcément à tout prendre en bloc. Donc il y a ce côté-là, d'aide là-dessus. Il y a ce qui va être peut-être plus spécifique pour des entreprises. Donc ça demande une compréhension des besoins des entreprises de manière plus précise. Il y a aussi, au-delà des outils eux-mêmes, les lieux comme étant des endroits de convergence de différents besoins, différents usages. Parce qu'il y a différents tiers-lieux. Il y a des tiers-lieux qui vont avoir des vocations peut-être uniquement de mutualisation d'un espace de travail, de coworking, c'est des bureaux, voilà. Après, il y a de l'informel qui se crée. Mais il y a des tiers-lieux qui vont être à dominante, je ne sais pas, sociale, par exemple, où on peut imaginer des endroits où il y a des repères cafés, des magasins de gratuité qui pourraient y être intégrés. Il y a des tiers-lieux qui peuvent être liés plus, comme c'est le cas au 8, Fab Lab, du coup, sur de la fabrication numérique. Donc, il y a des couleurs selon l'équipe qui a créé la structure, selon les besoins aussi des territoires.
Voilà, donc chaque structure de CIDI a en quelque sorte une spécialité ou qui est adaptée vraiment au territoire où elle est située.
C'est pas une volonté, comment dire, tu vois, c'est pas CIDI ne regroupe pas les gens qui sont expressément différents ou singuliers les uns les autres. Ça part d'abord d'une initiative locale quelque part, et du coup après il y a un désir ou un besoin de se mettre en réseau et de partager. Mais c'est lié aussi à l'échelle des territoires concernés, des villes où il va y en avoir un ou plusieurs, et aussi au fait qu'il y ait d'autres initiatives déjà en local qui soient déjà sur un créneau. Hein. Il n'y a pas forcément intérêt à venir multiplier les mêmes types de projets si en fait il y a déjà quelqu'un qui répond très bien à un besoin, quoi.
C'est bon. L'État, justement, a lancé aussi ce réseau d'agences France Service. On a une implantation à Adi. Je crois qu'il y en a d'autres ailleurs dans le Diois. Est-ce que c'est une complémentarité ? Est-ce que vous êtes amené aussi à coopérer avec ce type de structure ?
Alors oui, par exemple, dans le cadre de l'atelier, on est toujours amené à former des personnes qui nous sont envoyées justement ou répertoriées par France Service, voilà, pour les accompagner dans leur quotidien au niveau des démarches administratives, également des personnes de Pôle emploi, par exemple dans la recherche d'emploi, refaire un CV ou toutes sortes de possibilités que le numérique, enfin que les sites internet nous offrent.
J'ai envie de dire que ça dépend des lieux, voilà, et des profils des lieux. Parce que nous, au Fab Lab, du coup, on n'est pas du tout sur ce volet-là. Il y a d'autres structures à créer qui s'en chargent. Du coup, on n'est pas confronté, nous, à ce type de besoin, de demande. On est sur un autre créneau, quoi.
Voilà, donc CIDI s'adapte en fonction des demandes locales. Et pour ça, on va peut-être un peu plus approfondir la spécificité de chacune. À commencer donc par la tienne, Johan, avec le 8 Fab Lab. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver pour justement s'immerger dans ce monde numérique ?
Le Fab Lab, on pourrait le penser avant tout comme un grand atelier partagé, avec différents portes d'entrée. Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique. Donc ça veut dire qu'on va y trouver des outils dédiés et des outils dédiés à la fabrication. Alors, pour ce qui nous concerne, on a ce que tout le monde connaît, des imprimantes 3D, des graveuses laser. On a une CNC qui nous permet de travailler du bois en plus grand format, une imprimante céramique. Voilà, on a tout un outillage, plus tout ce qui va concerner l'électronique. Et nous, le projet d'un Fab Lab, en fait, c'est de pouvoir accompagner tout type de public, que ce soit des personnes individuelles, des jeunes, pour leur hobby ou pour leur travail, des entreprises ou des collectivités publiques, qui auraient besoin de pouvoir réaliser, prototyper, faire des tests rapidement en local pour vérifier, je sais pas, l'adéquation de ce qu'ils sont en train de construire avec voilà, la réalité, de se faire plaisir, parce qu'il y a des gens qui viennent pour se faire plaisir, de réparer des objets, parce que c'est ce qu'on fait aussi. Donc du coup, on a tout un volet qui va être lié à l'initiation et de la formation auprès de différents types de publics. Donc on forme sur des logiciels, on forme sur des machines. On a sur la médiation des ateliers qui se situent soit au 8 Fab Lab, soit hors les murs, donc type club ado, ou intervention en médiathèque, en collège, etc. On fait de la sous-traitance aussi pour des gens qui ne prendraient pas le temps de venir se former et réaliser par eux-mêmes les choses. On peut réaliser tout type de travaux. Et on a aussi des projets collaboratifs qui, du coup, demandent un accompagnement plus spécialisé et qui peuvent s'inscrire dans une durée un peu plus longue. Je pense, par exemple, on travaille avec le département sur le réaménagement d'espaces de vie de différents collèges, en concertation, coopération avec les enfants. du coup, qui sont directement concernés par leur espace de vie. Donc on a des temps sur une semaine d'immersion où on travaille avec eux sur leurs besoins, leurs attentes, les possibilités. On fait de la maquette à l'échelle 1. Et tout ça pour après qu'ils puissent le présenter à leur établissement et essayer d'influer sur les prochains travaux, pour qu'ils soient du coup acteurs de ce qui va être réalisé chez eux. Et on a des projets qu'on a initiés aussi. Du coup, là, il y en a un qui est en train de voir le jour en ce moment. C'est la Fabionite, qui est une petite unité de fabrication pour faire de la petite et moyenne série, c'est à Cré, autour de la question du recyclage des déchets plastiques. Donc, c'est-à-dire d'essayer de faire de l'économie circulaire, récupérer les déchets, les trier et en faire une nouvelle ressource pour créer des matériaux qui vont permettre de réusiner. Donc, dans l'idée comme ça d'un bouclage local. Donc, ça sera orienté recyclage plastique et bois. Du coup, pour les artisans, designers et les gens qui auraient besoin de faire ce type de travail.
C'est en quelque sorte une vitrine d'un savoir-faire de ce qui se pratique au 8 Fab Lab. Et est-ce que c'est aussi adressé à des investisseurs, par exemple, pour développer des techniques ou des nouveautés au niveau du numérique ?
Alors nous, on ne ferait pas appel à des investisseurs au sens classique d'investisseurs qui attendraient des retours sur investissement. On est structuré en SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, ce qui implique du coup qu'on peut devenir sociétaire, que les salariés, que les usagers, que les entreprises ou que les collectivités locales qui croient au projet et qui ont envie de le soutenir puissent du coup s'impliquer. Et à ce titre-là, on peut prendre des parts sociales. Et après, effectivement, pour le montage de projet, on est amené, comme toute structure, à chercher soit du financement auprès de collectivités publiques, soit effectivement, ça peut arriver auprès d'entreprises. Là, par exemple, pour la Fabionite, on a des entreprises qui produisent et qui ont des déchets plastiques et qui sont intéressées, du coup, dans cette recherche, parce que c'est une recherche encore aujourd'hui, de voir comment on pourrait remonter une filière en local de réemploi de ces déchets. Donc cette entreprise, par exemple, est partie prenante de ce projet-là aussi. Donc elle va mettre aussi un peu des billes financières pour la phase de développement.
Actuellement, donc, vous faites appel à des entreprises hors Drôme pour avoir cette matière du plastique recyclé, ou alors est-ce qu'il y a déjà une amorce de cette technique de recyclage existant en Drôme ?
Alors, il y a deux volets. Au Fab Lab, où du coup on n'utilise pas de la matière plastique brute sous forme de copeaux, où on utilise du filament pour l'imprimante 3D. Ça, aujourd'hui, il n'y a personne en Drôme qui est capable de recycler, produire et remettre en forme. Donc du coup, là, on est obligé de faire appel à des entreprises qui viennent de plus loin que la Drôme. Ça serait l'idéal si on pouvait rapatrier ça au plus proche. Et le projet du coup de Fabunit, c'est vraiment celui-là, c'est de trouver des entreprises locales qui, à l'heure actuelle, exportaient leurs déchets. Et là, l'idée, c'est de pouvoir les associer et pour arriver à essayer de reboucler une filière en local. Alors aujourd'hui, on est sur une phase d'expérimentation où on va travailler avec une matière brute. C'est des copeaux de plastique qui ont été triés, nettoyés, qu'on va réchauffer pour refaire des plaques. Mais dans l'expérimentation est prévu aussi du coup, de pouvoir tester une plus grande imprimante avec de la matière brute qui pourra imprimer en gros format.
J'ignore si vous avez visité l'entreprise qui vous fournit avec ses bobines de fil plastique. Est-ce que, au vu des installations, c'est un énorme challenge, on peut dire, pour introduire ça en Drôme ?
Le challenge, je ne pense pas qu'il soit sur le fait d'avoir accès à ces déchets retransformés en ressources, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de producteurs, de produits qui utilisent du plastique et qui, au sortir de leur cycle de production, en fait, on sait quel type de plastique c'est, on sait qu'il est propre, donc c'est facile de pouvoir le catégoriser, etc. Ce qu'il faut qu'on arrive à évaluer, c'est... est-ce que on arrive à le remettre sur une boucle, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir vraiment une demande, est-ce qu'on peut générer un usage et une confiance aussi pour que, par exemple, ces mêmes producteurs, je prends un exemple, une entreprise qui ferait des pièces plastiques pour, je sais pas quoi, moi, de l'agencement de voitures électriques, je sais n'importe quoi. Il produit ces pièces, il va avoir des déchets. Est-ce qu'il pourrait, avec ces déchets, en fait, remettre en forme des matériaux qu'il pourrait tout de suite réutiliser lui-même ? Donc du coup, c'est un peu ça. Donc il faut qu'on retrouve les débouchés aussi au plus proche. Et tout l'enjeu de cette phase d'expérimentation, ça va être ça. Ça va être de voir comment petit à petit on fait la preuve que en fait, du plastique recyclé remis en forme, du coup, a des caractéristiques techniques qui sont suffisamment pertinentes pour qu'elles soient tout de suite réintroduites dans le cycle de production des entreprises qui pourraient en avoir besoin.
Voilà, donc une optique conviviale du plastique à l'avenir, ça c'est un enjeu.
Je pense que, enfin, alors, je vais parler en mon nom, pour moi c'est surtout une transition parce que ce qu'on fait avec ça aujourd'hui, c'est déjà d'essayer de faire en sorte que ces poubelles qui sont aujourd'hui, c'est des poubelles hein, en fait, c'est des déchets, ne repartent pas et ne refassent pas des kilomètres en camion, etc. et contribuent du coup à ce qu'on sait en termes de pollution. Mais ça n'empêche qu'à terme, ça serait à mon sens beaucoup plus intéressant de pouvoir se dire qu'on arrive à la source à travailler avec autre chose que du plastique. Pour moi, c'est une période transitoire. Et donc du coup, c'est dans cette perspective-là qu'on développe ce projet. Mais l'idéal, ce serait à mon sens qu'on arrive à se passer de plastique, en tout cas dans le maximum des usages, quoi.
Aïcha, donc vous êtes à l'atelier à Die, place du marché, et... Quelle est la mission de CEDI, justement, au sein de l'atelier ?
Alors d'abord, je voudrais quand même, en fait, par rapport à ce poste, moi j'ai été embauchée tout début janvier, et rien que d'être ici, de pouvoir écouter Johan et à d'autres occasions, voir ce que le Fab Lab 8 fait, mais toutes les autres structures, et d'être vraiment mis en lien à travers ce poste, créé par le Moulin Digital, et aussi on voulait donc préciser qu'il y a le soutien financier du Fonds Social Européen, un fort soutien du département de la Drôme, donc vraiment pour nous mettre en lien, et c'est formidable. Enfin, moi j'étais toute seule dans mon coin, difficulté d'embauche et tout dans la Drôme, on connaît dans le Diois encore plus. Donc ça me remet dans le milieu du travail et dans un milieu de travail qui m'intéresse, c'est-à-dire au niveau de la réutilisation de nos déchets ou au moins d'être avec des personnes conscientes qu'il faut diminuer nos déchets. Donc ça, c'est un volet avec le Fab Lab. Moi, je vais effectivement parler de notre volet ici à l'atelier. Nous, en fait, donc, c'est aussi un tiers-lieu, donc un espace de coworker. Les postes d'animateurs, c'est vraiment de faire l'accueil dans ces lieux-là. Donc, on a des salles en réservation, des salles individuelles, des salles collectives, une salle collective, une salle de formation donc, où il y a des cours, des formations offertes à l'atelier, dont je vous parlerai juste après. Donc, mon poste au quotidien, c'est vraiment d'accueillir vraiment toutes les demandes, en fait. Donc, je vois que ce que j'ai créé dernièrement, c'est vraiment d'abord avec nos rencontres avec les autres animateurs des autres tiers-lieux, avec les formations au Moulin Digital, mais avec toutes ces personnes qui entrent et qui frappent aux portes de l'atelier. Donc, l'atelier, au départ, est très connu par rapport à Elias Martin, qui est un réparateur, qui est un des coworkers, en fait, qui loue la salle à l'avant. Donc, on a beaucoup de personnes qui entrent par rapport à ça, mais ça veut dire que ce sont tous des utilisateurs du numérique, et c'est très varié ce qu'on peut faire à travers le numérique et les besoins qu'on peut avoir. Donc il y a des niveaux très différents. Par exemple, donc, tous les mardis matin, on a un accueil qui s'appelle échange de pratiques numériques. Donc c'est moi qui l'anime en ce moment. Donc de 10h à midi, tous les mardis matin, vous venez avec n'importe quelle de vos autres demandes. Ça peut aller à je voudrais renouveler mon permis de conduire, je ne sais absolument pas le faire. Par exemple, dernièrement, on a eu une personne qui a frappé la porte, elle était en panique, elle avait une VAE à remettre en pagination conforme avec des choses que des fois on ne sait pas faire. Donc une VAE, il fallait rendre un document tapé, quasiment relié, c'est une validation d'expérience acquise. Et donc, la personne doit faire valider ses acquis, mais il faut également qu'elle maîtrise Word, mais quasiment de A à Z, des choses que moi, j'avais appris quand j'ai moi-même fait mon master. Donc, pouvoir faire ça, pouvoir ajouter, enfin, toutes les demandes sont vraiment extraordinaires. Et moi, ça me permet aussi de voir les besoins du DIY. Là, dernièrement, on a vu beaucoup de personnes qui arrivaient avec leurs besoins, leurs projets, de mettre sur la toile aussi leurs créations, leur petit coin à montrer, donc faire un site internet WordPress, par exemple, ça c'est ce qui a été demandé dernièrement. On nous a demandé du Excel pour ajouter sur un CV, pour pouvoir trouver un emploi. Donc voilà, les demandes et les offres se croisent au niveau formation numérique à l'atelier. Et moi, avec mes expériences passées en tant que formatrice en français langue en général, ou aussi en ingénierie de la formation, eh ben, ça me permet aussi d'ajouter du nouveau à l'atelier. à part la pratique d'échange numérique et déjà tout ce qui est installé à l'atelier, on espère pouvoir ouvrir une zone qu'on voudra appeler la ZOAN, parce qu'on n'est pas des bonnets, la zone d'auto-apprentissage par le numérique, mais aussi de co-apprentissage, comme les co-workers, de co-création, fait d'être ensemble dans le processus, non seulement de l'apprentissage, mais également de l'enseignement. Étant issu de ce domaine-là, je me rends compte des lacunes de formation au niveau des enseignants. On ne sait même pas quelquefois ce qu'on enseigne, que ce soit du primaire jusqu'à niveau universitaire ou même dans les centres de formation. On ne sait pas ce qu'on enseigne, donc on ne sait pas ce qu'on évalue. Enfin voilà, quand je rentre dans mon domaine, je peux développer. Mais pour revenir au niveau de la ZOAN, c'est vraiment de créer un lieu, un espace-temps pour les personnes qui apprennent, quel que soit l'élément, quel que soit le domaine, de se retrouver dans un endroit. Donc, la première étape, pour moi, c'est ZOAN par le numérique. Mais la deuxième étape, et je pense qu'il faut qu'elles aillent ensemble, c'est ZOAN.2, mais c'est par la nature également. Ça serait de créer un espace de co-worker, de co-apprentissage, co-enseignement, mais dans un milieu également naturel. Donc, voilà, à peu près. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, en tout cas, venir nous donner vos besoins et vos offres. Il y a des formateurs dans le coin. Voilà, nous, si je peux aussi également développer avec CEDI, on voudrait. Donc, l'objectif cette année, c'est également d'obtenir la certification Calliope. Donc, les tiers-lieux, c'est vraiment la mutualisation des moyens, des cerveaux, des espaces et du temps, parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps de travailler ensemble. Donc là, on est plusieurs structures parmi toutes celles dont on vous a parlé qui se mettent ensemble pour vraiment mutualiser nos énergies pour avoir la nouvelle certification Calliope et offrir des formations qualifiantes, certifiantes, diplômantes, comme ils appellent, et pour que tout un chacun puisse utiliser aussi bien leur CPF quand on est en tant qu'individu, mais aussi pour les entreprises, voilà, pouvoir financer des mises à jour des compétences, des formations qualifiantes pour leurs salariés.
Donc, ça s'adresse aux particuliers, mais aussi donc aux entreprises qui désirent faire progresser leurs employés dans des domaines du numérique. Est-ce que vous pouvez nous définir, vous deux, quelle est la différence entre une entreprise de formation agréée privée et votre structure ? Quelle serait la différence ?
Qu'est-ce que tu entends par une structure d'organisme privé?
Il y a des centres de formation
où,
privés qui sont qui fonctionnent avec des tarifs excessifs. Hein, je parle et d'autres comme votre structure qui sont plutôt associatives ou coopératives.
L'obtention de cette c'est un label ou c'est une qualification? Je sais pas trop.
C'est un label. C'est
un label.
On parle de Calliope.
Ouais. Oui. En fait, c'est un référentiel du coup qui permet aux gens qui s'adressent à nous de s'assurer en fait qu'on partage un référentiel du coup de contenu, de mise en œuvre, du coup de qualité. Hein, c'est un peu ça que ça dit dans ce label Calliope. Et c'est aussi la porte d'entrée en fait à la possibilité de se faire financer du coup ces formations. Aujourd'hui, par exemple, je suis pas certain que dans le réseau il y ait déjà des structures qui puissent proposer des formations qui soient prises en charge par le CPF, le compte personnel de formation. Du coup, ça, c'est aussi un des enjeux. C'est en fait de pouvoir faciliter l'accès au maximum de gens avec, du coup, en tirant parti des aides d'État qui sont là pour ça. Et ça demande voilà, de pouvoir organiser les contenus de formation, la manière dont ça va être validé, etc. Et là, nous, au sein de CEDI, ça a été le parti pris d'essayer d'en monter un mutualisé. Et on a réussi à engager ce travail aussi grâce au fait qu'on ait été lauréat de la Fabrique des Territoires. Parce que du coup, CEDI, c'est un commun de territoire au service du numérique. Et à ce titre-là, on avait demandé une aide financière pour travailler là-dessus, sur les perspectives de mutualisation qu'on peut mettre en œuvre, dont l'organisme de formation est déjà un premier pas quoi, dans cette direction.
On peut peut-être aussi parler de l'espace Barral, hein, qui accueille aussi CEDI. Quelle est la fonction de CEDI dans ce lieu?
Alors, CEDI n'est pas dans ce lieu. C'est l'espace Barral qui contribue à CEDI, qui fait partie du réseau. Mais du coup, à ce titre-là, l'espace Barral bénéficie aussi du coup d'un animateur qui est du coup Naomé Mercier, qui travaille là-bas depuis la rentrée, là, depuis janvier. Barral, l'espace Barral, c'est un autre espace du coup de coworking et qui a un volet aussi axé sur la santé parce que du coup c'est un des, bon, je pense que c'est le seul ici, de tiers-lieu qui a ce côté accueillir des gens qui sont dans le soin. Ce qui n'est pas courant en fait aussi dans les tiers-lieux. On a l'image souvent de quelque chose qui serait que des mecs derrière l'ordinateur. Ben non, en fait, on peut très bien mutualiser des espaces de travail pour avoir, si on n'a que 3 créneaux par semaine pour faire des massages, ben, pourquoi pas le mutualiser avec d'autres.
Pas que, hein, il y a d'autres...
Oui, non, je dis ça comme ça.
Et on peut parler aussi de l'étendue de CEDI à travers la Drôme, notamment à la Motte-Chalancon. Il existe donc une structure tenue par qui et quelle est sa spécificité?
Alors moi, j'ai rencontré, c'est Jordan, je l'ai rencontré qu'une seule fois, c'est avec Avantique à la Motte. Et voilà, lui, il nous a tout de suite fait découvrir son côté plus jeu vidéo, en fait. Et nous, on aimerait bien soit l'inviter, soit aller voir un peu les actions qu'il fait dans ce cadre-là, là-bas, dans l'animation de son tiers-lieu, et en ajoutant sa touche personnelle, justement. Dernièrement, on nous a posté une photo, il avait fait un événement avec manga et tout, je crois. Donc à découvrir.
Moi, je suis jamais allé à Avantique, mais de ce que je sais, du coup, c'est un petit peu un des confins de la Drôme. Et je pense que le gros de leur attention est justement sur l'accompagnement à l'usage du numérique dans des problématiques administratives, d'orientation, d'initiation, sur les B.A.B.A., on va dire, des outils qu'on peut avoir, dont on peut avoir l'usage au quotidien. Et ils aimeraient bien, je pense, pousser un peu plus aussi, du coup, sur de l'animation auprès des publics plus jeunes. D'où aussi ces ateliers qui proposent.
Le numérique aussi arrive par le côté médical. Hein. Récemment, j'ai reçu une personne qui parlait de l'installation d'un cabinet médical virtuel à Saint-Nazaire-le-Désert, dans ce village assez éculé d'ailleurs, et d'où cette nécessité. Est-ce que vous envisagez aussi un développement du numérique insoupçonnable de nos jours, mais qui serait certainement imposant ou qui sera forcément évident pour l'avenir?
Moi, c'est comme si je faisais sauter une pièce en l'air et qu'il y avait un peu deux faces au possible développement du numérique et à l'avenir. Y en a un qu'on voit assez radicalement s'installer un peu partout, donc un développement de services tous azimuts, mais aussi un monopole de plus en plus grand de plateformes multinationales. Des logiques d'accès où, en fait, on ne sait pas ce que ces entreprises récoltent comme données et comment elles le monnayent aussi. Une incapacité à pouvoir voir de quoi sont faites les applications qu'on nous propose. Y a tout un penchant comme ça, une accélération, on va dire, du coup, et une montée en puissance... d'un certain type de pratique, d'un certain type d'entreprise avec le numérique qui amène des changements. Alors les apôtres d'un certain gouvernement diraient la disruption. C'est pas forcément des disruptions qui sont toujours dans le bon sens. Ça peut faire évoluer des pratiques de manière intéressante. Moi, quand je pense aux avancées que ont amené les développeurs en termes de mode d'organisation collaborative, à distance, en utilisant des outils logiciels libres, je trouve que ça rénove des pratiques, ça nous pose des questions sur la manière de travailler ensemble. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ces gens-là. D'un autre côté, il y a des choses qui me font très peur, comme la concentration des pouvoirs qu'on voit avec des grandes entreprises comme Amazon, qui concentrent je ne sais pas combien de pourcentage des serveurs dans le monde, ce qui veut dire que toutes les données des banques, des entreprises publiques, etc., sont à un seul endroit. Donc, c'est un petit peu perturbant. Et d'un autre côté, ça c'est un des volets, une des faces de la médaille, on va dire, pour caricaturer. Et il y a un autre volet, une autre face, qui pourrait être justement de se dire, puisqu'on a des questions, à mon avis, essentielles. Aïcha parlait de co-apprentissage, de co-formation. Je pense qu'il y a une responsabilité qu'on doit avoir aussi sur se dire, il faut que ces outils-là, il ne faut pas qu'ils nous façonnent. Il faut que ce soit nous qui les façonnions. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne comment ils marchent, qu'est-ce qu'on peut en attendre, comment on peut les faire évoluer, comment aussi on fait en sorte d'avoir une transparence de leur financement, de leur mode de fonctionnement. Et peut-être aussi qu'on va être amené aussi à relocaliser un certain nombre de choses. Il y a de plus en plus d'initiatives pour avoir des data centers qui soient localisés, pour qu'ils ne soient pas hébergés à l'autre bout du monde, qui ne servent pas à des transactions financières dont on n'a aucune idée. Donc toute cette question qui se pose de relocalisation, de gouvernance de ces outils-là, qu'on voit dans d'autres domaines. Hein. C'est la même question pour l'économie de proximité, sur l'agriculture locale, durable, les circuits courts. Je pense que c'est des questions qui émergent de plus en plus au niveau du numérique. Et il y a des organismes, heureusement, je pense à Framasoft, je pense à la Quadrature du Net, il y a des gens qui œuvrent dans ce domaine pour du coup nous accompagner dans l'analyse en fait, de ce qui se passe. Parce qu'on voit une face facile sur un écran, mais si on ne va pas chercher plus loin, on ne se rend pas compte de tout ce que ça implique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques et politiques qui se passent derrière cette face-là. Voilà. Et du coup, un des enjeux, à mon avis, des tiers-lieux, est aussi d'accompagner les gens vers cette compréhension de ce monde-là. Parce qu'on dit que le numérique ne fait pas de traces, est très léger, et tout ça, mais il y a une infrastructure qui supporte le numérique. Et si on ne la regarde pas, on ne sait pas de quoi... Qui possède ça, comment ça joue, comment ça influe.
Aïcha Gül, qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine du numérique en étant passé par l'enseignement?
Alors, un de mes derniers postes, en fait, c'était l'enseignement, la formation à des futurs ou formateurs au Québec à travers une université, donc une plateforme. Je reviens sur cette dernière expérience parce qu'en fait, quand l'université canadienne, au bout de 2 ans d'enseignement et de production de matériel, de développement par rapport à l'enseignement à distance, hein, j'enseignais à distance depuis 10, m'a finalement dit qu'il ne me réembaucherait pas. Ça a été un choc forcément, mais bon, comme tout être humain qui veut rebondir, je me suis dit, mais oui, enfin, ça n'avait pas de sens, Aïcha, que tu sois en pleine nature ici et que tu passes autant de temps sur l'ordinateur. Et aujourd'hui, donc en mois de décembre, quand j'ai postulé et que voilà, animateur de tiers-lieu veut dire quand même beaucoup de matériel informatique, beaucoup d'ondes. Ça rejoint ce problème, donc tous les problèmes qu'a évoqué Johan, s'ajoute celui-là également. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce matériel qui quelquefois devient très vite obsolète? Comment on le recycle, comment on le bonifie. Des choses qui, par exemple, moi, je reçois des imprimantes, des vieilles choses. Les experts vont me dire, non, ça c'est poubelle. Et moi, je suis là, mais c'est quand même un disque dur. Il a quand même 25 gigs. On peut peut-être faire quelque chose avec. Donc j'ai tout le reste. Non, ça tu jettes. Si tu veux vraiment garder le disque dur, tu le gardes. Une semaine après, il y avait quelqu'un qui me dit, t'as gardé ça, mais moi je le prends, moi je l'utilise. Donc voilà, il y a ce volet-là qu'il faudra vraiment qu'on ait conscience. C'est que d'abord, il y a des personnes, d'autres personnes qui sont passées, qui sont expertes, qui sont électrosensibles, donc qui sont experts dans l'électrosensibilité, qui m'ont tout de suite donné quelques petits indices. Mais voilà, on aimerait inviter ces personnes, on aimerait qu'elles informent les personnes sur qu'est-ce qu'on peut éviter de très facile et comment on peut réutiliser, redonner, distribuer tout ce matériel qui est stocké à plusieurs endroits. Donc avant, on en a encore des tables, des chaises. Maintenant, voilà, il y a le matériel informatique et les ondes qu'il faut...
Et puis, un petit peu de pédagogie pour les auditeurs et pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut définir avec ce terme tiers-lieu?
Ah oui, c'est un peu le un tiers-lieu. Je vais passer par la bande. Moi, j'aime bien la définition. On parle de tiers-espace ou de... Gilles Clément, il parle de tiers-paysage. Et du coup, c'est des endroits qui sont à mi-chemin entre plusieurs domaines où, du coup, il y a une marge, il y a du jeu, en fait, au sens où, en mécanique, entre deux pièces, il peut y avoir du jeu. Ça laisse une mobilité. Et au départ, les tiers-lieux, c'est un petit peu ça. C'est des espaces qui sont à mi-chemin entre le travail et la maison, où on laisse une possibilité dans cet indéterminé à ce que puissent naître en fait des choses qui étaient inattendues. Des collaborations entre personnes, de la co-formation, de l'apprentissage partagé. On n'est pas uniquement dans une optique de travail avec cette obligation de rentabilité où du coup tu te mettrais des œillères sur tout ce qui pourrait être à l'instant T légèrement décalé. C'est le fait de pouvoir rester poreux à ce que fait le voisin, de pouvoir avoir cette marge d'imagination, de te dire « Ah mais tiens, en fait, il a peut-être la même problématique que moi, si on réfléchissait différemment à deux, ben, ça pourrait nous décoincer, potentiellement générer un projet nouveau. » Et c'est des espaces qui peuvent être amenés à... qui sont ouverts à... aussi aux usages qui n'ont pas été prédéterminés. Donc, ça implique que les gens soient acteurs de leur développement. Un espace où tu viendrais que louer des bureaux et repartir, c'est du coworking, mais c'est de la location d'espace. Pour prendre une autre dimension, c'est vraiment que les gens se sentent appartenir à cet endroit-là, qui ont envie de contribuer. Donc, ça peut relever de plein de dimensions. La première, mais c'est souvent aussi celle qui peut être négligée, il y a un espace, donc ça veut dire qu'on s'en occupe, il y a une machine à café, on a de quoi nettoyer, c'est nous-mêmes qui faisons le coup de balai, on s'arrange pour réorganiser, il y a ce côté du quotidien, mais il y a aussi, moi j'aurais envie de générer, un club autour du logiciel libre, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui auraient envie de le partager avec moi, et si on montait une activité, enfin, c'est laisser cette place à ce qui peut advenir.
Je reviens un peu sur l'inquiétude de cette concentration de données opérée par les GAFAM. Je voulais savoir, est-ce que c'est dans vos réflexions, même à titre comme ça, d'idées simples, de trouver une certaine autonomie de stockage ou de locale?
Alors, du coup.
De manière à être justement mise à l'écart de ces mastodontes du numérique.
Ouais, alors il y a plusieurs choses. Au 8 Fab Lab, on est en train de migrer progressivement tous nos outils qu'on avait en ligne sur Google et autres sur d'autres logiciels, des logiciels libres et en stockage local. Ça veut dire que du coup, on va garder la donnée chez nous au maximum. Donc ça, on est en train de le faire. C'est une migration qui prend un peu de temps. Il faut se réhabituer. Ça fait peur parce que les GAFAM ont des moyens incroyables, ont développé des logiciels qui fonctionnent hyper bien. Et que du coup, quand tu veux l'éthique derrière, il faut peut-être accepter aussi à un moment donné que tu mises pas sur tout l'esthétique, que tu aussi tu dois réapprendre un nouveau fonctionnement. Donc ça, on est en train de le faire à titre vraiment privé de la structure. Mais je sais qu'il y a aussi des... moi, je suivais par ailleurs dans d'autres réseaux, il y a des assos, des coopératives qui proposent des services. Alors, soit de stockage plus relocalisé, ça existe déjà. La problématique qu'on va avoir souvent, qu'on va avoir les structures, c'est qu'un service qui n'est pas payant aujourd'hui parce que du coup, tu es tracé, parce que les entreprises capitalisent sur tes usages et qu'ils les revendent à des annonceurs, etc., et qu'on fait du profiling pour du merchandising. Pour ne pas être soumis à ça, ça veut dire qu'il faut soit être capable de le monter en propre, c'est-à-dire de manière bénévole, il faut qu'il y ait un groupe qui le prenne en charge, soit ça veut dire qu'il faut être prêt à payer un service pour les gens qui travaillent là-dessus. Et donc, c'est là où ça devient compliqué. On s'est habitué à la gratuité à cet endroit de certains types de services, alors qu'en fait, ces services ne sont pas gratuits. C'est juste qu'on ne voit pas comment ils sont monnayés. Et donc, ça, en cherchant, on trouve. Il y a des initiatives un peu partout de stockage de données avec des logiciels libres et dans une démarche éthique. Et je sais qu'à DI, par exemple, il me semble qu'il y avait le projet d'une AMAP numérique que Guillaume, a priori, est en train de monter avec d'autres et qui devrait, j'imagine, enfin j'espère en tout cas, voir le jour bientôt. C'est des choses qu'on pourrait tout à fait imaginer. Je pense qu'on pourrait, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qu'on pourrait remutualiser, ou qu'on pourrait mutualiser tout court, qui n'ont jamais été mutualisés, mais on pourrait faire des communs à cet endroit-là. On pourrait imaginer qu'un certain nombre d'entreprises, d'assos locales, mutualisent sur des serveurs et définissent une manière de coopérer pour avoir ça. Ça ne me paraît pas insurmontable. Après, est-ce qu'il y a des fonds pour ça? Est-ce que ces structures peuvent être aidées? Est-ce que les municipalités, les collectivités qui partagent ces points de vue sont prêtes aussi à faire un pas vers là. Je pense qu'il faut vraiment l'entamer. À mon avis, c'est un des tournants pour garder notre autonomie, etc.
On va bientôt terminer. Aït Chagul, donc, vous êtes à l'atelier avec Cédi. Quelles sont vos disponibilités et comment découvrir ce que vous proposez sur Internet, par exemple?
Alors, donc, nous, on est deux à l'accueil de l'atelier. Donc, il y a moi du lundi au jeudi et Cédine qui est là également les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Tout ce qui va être lancé, par exemple, on a une formation WordPress qui va démarrer dans moins de 15 jours, en fait, sous deux formats, une formule intensive sur 4 lundis, donc du 22 février au 15 mars, et une formule session normale, on va dire, 8 matinées qui aura lieu les mercredis matins, donc qui sera lancée également le 24 février jusqu'à la mi-avril. Alors, donc moi, je reprends la main sur, effectivement, tout ce qui va être la communication également. Donc, vous allez trouver les informations sur le Facebook, sur le site internet, l'atelier.in. Donc, pareil pour le Facebook, c'est l'atelier tout attaché. Principalement là et vraiment aussi sur notre vitrine. Trois places du marché en plein centre. Vous passez quand vous voulez et on vous donne tout le programme.
Voilà, une manière aussi de pouvoir créer son propre site internet.
Oui, de A à Z, vraiment, donc conceptualisé avec Denis Moplot, le formateur pour WordPress chez nous en ce moment. Et du coup, voilà, on a vraiment 11 thématiques qui va du choix de l'hébergeur, du choix des thèmes, des modules, des plugins. Enfin, moi, je ne connais même pas tous les termes jusqu'au référencement, jusqu'à la mise en veille. Enfin, voilà, il y a vraiment 11 thématiques sur 8 séances de 3 heures. Voilà, on réaménage la salle pour qu'elle soit justement la plus propice à la formation. Et on espère également, on espère filmer les formations pour qu'ensuite elles soient disponibles justement dans cette ZOAN, zone d'apprentissage, auto-apprentissage. Donc quand les personnes veulent reprendre leurs cours, ils peuvent cliquer sur le numéro et les contenus et réécouter. Voilà.
Johan,
Moi, je vais juste rebondir parce que ça me fait penser à quelque chose un petit chantier qu'on a mis en route là, d'entendre parler de site internet. Nous, on est en train au Fab Lab d'entamer une réflexion sur la question des low-tech. Du coup, qui va aussi sur la question, quel type d'usage est vraiment le plus adéquat? Comment évaluer l'impact que ça peut avoir et du coup, pas forcément rentrer dans une frénésie tous azimuts et incontrôlée. D'applications, d'outils, etc. Et à ce titre-là, du coup, on est en train de travailler sur faire un site internet low-tech. Et du coup, c'est quoi un site internet low-tech? Et ben, ça serait un site du coup qui serait dont l'énergie proviendrait de capteurs solaires. Ce qui veut dire qu'en fait, le site ne serait pas forcément à 100% de sa définition à tout moment, puisqu'en fait, le soleil varie. Donc, ça veut dire réintroduire de la variation liée à la réalité d'un contexte. Et je trouve que c'est une démarche qui est... nous, on l'a repris des gens du Low-Tech Lab et d'autres qui ont travaillé là-dessus. Low-Tech Magazine, normalement, qui est une mine là-dessus. Et je trouve que ça, c'est un très bon exemple de ce qu'il faut peut-être qu'on réapprenne, c'est-à-dire faire avec et pas se dire que c'est tout le temps argent comptant à 100%, à 100%. Et je trouve de travailler avec cette conscience aiguë de quelles sont les ressources qu'on emploie. Est-ce qu'on peut quand même adapter, dans ce cas d'un site, le contenu à une baisse d'énergie? Donc ça veut dire peut-être qu'on aura moins de couleurs, peut-être qu'on n'aura plus les vidéos, peut-être que... En fait, il y a une forme d'adaptation du site à la réalité du potentiel énergétique disponible. Et je pense que d'avoir une vision réfléchie et une pratique réfléchie de nos outils par ce biais-là, le biais de la ressource, je trouve que ça ouvre des pistes dans plein de domaines, en fait. Et voilà.
Voilà, un outil sans esthétique, sans séduction.
Ah, pour moi, c'est pas sans esthétique. Ça veut dire qu'aussi, on a une vision de l'esthétique qui est ce côté, peut-être, ils disent quoi
Fonctionnel, tout
ouais,
simplement.
Non, mais tu sais, il y a le côté esthétique, c'est, dans le numérique, il faut que ce soit sexy, il faut que ce soit je sais pas quoi, glamcy, machin, tout ce qu'on veut. C'est juste qu'il y a aussi, on peut regarder l'esthétique d'un point de vue, est-ce qu'il y a du papier glacé, est-ce que ça brille, est-ce que c'est des paillettes, tout ça. Mais l'esthétique, elle peut avoir une profondeur plus importante. Est-ce que cette esthétique, elle est éthique, en fait? Et du coup, est-ce qu'elle est fonctionnelle, effectivement? Est-ce que l'ergonomie est adaptée? Est-ce que les dépenses nécessaires sont adaptées à l'usage réel? Et voilà, et ça veut dire que peut-être aussi on peut déplacer notre regard pour regarder et juger différemment les formes des choses, parce que c'est les formes, c'est pas qu'une apparence extérieure, c'est aussi de quoi elles sont constituées. Et ça ouvre tout un champ, je pense, qui est vraiment pertinent pour ce que nous arrive aujourd'hui, quoi.
Pour vous joindre, je mettrai les coordonnées sur la page internet de l'émission, et je vous remercie en tout cas Aïcha Gül-Kurtz et Johan de Michelis d'être venus nous parler de CEDI et de ses ramifications, et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci à toi. Merci.
Au revoir.
想念早上的一切声响，早上是一切声响的源头，它们匆匆留下入夜的时候，或许就是在寂静的夜里有了四处的幻听，以为它捧着烛台打开了暗道，或是幻听的暗道打开。 看他裙角擦过台阶的痕迹，那痕迹长出青苔，那青苔映上裙角，他留下线索，在坠入兔子洞之时，忽大忽小，忽大忽小，这药水若有味道，那是他们吃圆珠比天蓝色的香味。 人工香精的味道，所有人对甜的母性印象，难以想象她也许要成为一个母亲永远含苞的花朵里面猪背的小钢牙，汹涌的僵硬，刺耳的啸叫，指尖敲击桌面的连续音节，突发的休止符。课间广播里有人说。 一封匿名情书，一首匿名情歌，一段匿名青春，一张匿名面孔，一颗脏兮兮的足球飞过沙尘暴，砸碎所有左耳边的玻璃窗。笔芯断了，它甩出一片天蓝色，或是突然被制止的一个哈欠。 他在近臣前和谁讲话了一连串命运的讯号，剪断了那一头纠结沙草星光和炊烟的长长乱发，削了铅笔，倒很自然，翻开一个空白的笔记本，他说。 他说：“他说，你没遇到独角兽吗？他身上的油彩染了那壶水。在地下三层的地铁站等待列车。” 灯箱里的演唱会海报变成那些信件，有墨水印出的花朵和大段大段的空白。随列车快速驶来的风吹起他的裙角，小腿伸出青苔，门要合上，快快收好你的裙角。列车要出站了，他的夜晚逆向驶去，没有和任何人的夜。